Voici les titres du journal.
Le Grand Conseil valaisan a accepté ce matin un crédit d'engagement pour l'achat du lycée-collège de l'abbaye de Saint-Maurice par le canton. On en parle dans un instant avec Yves Terrani. Valdilier souhaite attendre encore un peu avant de revenir avec Energy and Water Illier SA, l'entreprise lui permettant de récupérer la concession des eaux des bains, et ce même si le tribunal de Montet a donné raison aux autorités communales. Pour son avenir, la réserve naturelle des Grangettes à Neuville se tourne vers ses usagers. La fondation du même nom a lancé un appel auprès des populations de Villeneuve, Neuville et de Port-Valais. Le Parlement fédéral bouclera cette semaine par le budget 2022 de la Confédération. Il ne subsiste plus qu'une divergence de détail. Elle est demandée par le Conseil des États, précision dans ce journal. Et en ski cross, Fanny Smith sera engagée dès ce soir du côté d'Arosa dans les Grisons pour un sprint en nocturne. Et en ski alpinisme, la Coupe du Monde fera son retour dès jeudi à Amabello en Italie.
Et pour la météo, encore un peu de stratus sur la Riviera en ce début d'après-midi. Sinon, le temps sera assez ensoleillé pour demain. Météo Suisse nous promet le même type de temps. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour. 10 millions de francs bruts, c'est le montant du crédit d'engagement voté ce matin par le Grand Conseil valaisan pour l'achat par le canton du lycée-collège de l'abbaye à Saint-Maurice. Yves Terrani, en vous retrouvation où vous suivez les débats du Parlement cantonal, ce crédit est passé, on peut le dire, comme une lettre à la poste.
Oui, jugé plutôt. 127 oui, 0 non et 0 abstention, un résultat sans appel. Mais avant d'y revenir, je vous propose un bref rappel historique. Au cours des dernières années, les lycées-collèges valaisans ont dû faire face à une augmentation de leurs effectifs. Ils fonctionnent à l'heure actuelle à la limite de leur capacité. Une situation particulièrement visible au collège de l'abbaye à Saint-Maurice, un établissement qui a vu le nombre de ses élèves progresser de 30% depuis 2015. Ainsi, le canton planche depuis 2016 sur un rachat du collège agonois où les investissements importants doivent être planifiés afin de remettre à niveau les installations. Or, l'abbaye n'a plus les moyens de s'engager dans des travaux de rénovation, observe le Conseil d'État dans son message au Grand Conseil.
Et puis d'autres événements successifs, Yves, sont ensuite venus accélérer le processus.
On pense en particulier à la fermeture de l'internat ou au projet de construction d'un nouveau collège à Aigle. Propriétaire de l'abbaye, la communauté des chanoines a donc souhaité que l'État du Valais reprenne rapidement la conduite et l'exploitation du lycée-collège. Le gouvernement cantonal a ainsi décidé il y a 2 ans de foncer, approuvant le principe de l'extension et d'une rénovation de l'établissement et donc d'un rachat du bâtiment qui comprend les salles de classe, les salles de sport, le théâtre du Martelet ou encore la bibliothèque.
On suivit des négociations autour du prix.
Pour arriver à ces 10 millions, dont un à charge de la commune de Saint-Maurice. Alors, je vous épargne les calculs d'épiciers qui ont conduit à fixer ce montant. Il y a question de mise en conformité sécuritaire, de subvention et d'amortissement des dettes de l'abbaye, entre autres. Ce sera donc au final 10 millions que la communauté des chanoines utilisera pour la rénovation du bâtiment de l'internat, internat dont elle reste au demeurant propriétaire.
On revient, Yves, aux discussions et aux votes de ce matin.
Qui n'ont pas traîné, unanimité en faveur de cet investissement, peu de discussions ou de commentaires, au contraire des réseaux sociaux cités par le ministre de la Formation, Christophe Darbelay. Réseaux sociaux où il était question, a relevé l'intéressé, d'interrogations quant à la nécessité pour le canton de racheter une épave. Pour plusieurs intervenants, dont le PDC agonois Laurent Ray, 10 millions ce n'est finalement pas cher payé pour un tel établissement scolaire. Christophe Darbelay a ensuite rappelé le retard du canton dans l'entretien des infrastructures du secondaire 2. Il a évoqué un impératif de rattrapage. S'agissant du collège de l'abbaye, il a évoqué aussi le besoin de répondre au futur collège d'Aigle. Il faut rendre Saint-Maurice attractif, maintenir les étudiants valaisans dans le canton, a-t-il souligné.
Les prochaines étapes de ce dossier, Yves ?
Le lancement d'un concours d'architecture courant 2022 pour un début des travaux espéré un an plus tard. L'aile scientifique est dans un état calamiteux, a lancé Christophe Darbelay. Le périmètre du concours comprend le lycée-collège, l'internat et la zone sportive. Le canton prendra à sa charge la rénovation du lycée-collège et la construction des infrastructures sportives dont une salle de sport double à l'ouest de la gare. Le montant de ces travaux est estimé à 40 millions, participation communale comprise. Il reviendra au futur lauréat, bureau lauréat du concours de respecter cette enveloppe budgétaire, explique l'exécutif cantonal toujours dans son message.
Yves Terrani en direct de Sion, merci. Et j'ajoute que le Grand Conseil valaisan a entamé tout à l'heure l'examen du budget 2022 du canton du Valais.
L'examen du budget 2022 était aussi à l'ordre du jour de l'Assemblée primaire de Valdilier hier soir.
Oui, un autre examen de budget 2022, celui de Valdilier qui laisse apparaître une perte de 677 000 francs environ pour un total des charges de 12,1 millions de francs. Mais ce n'est pas les chiffres inscrits dans ce budget qui nous intéressent aujourd'hui, mais plutôt ceux qui n'y figurent pas. Valérie Blom se trouvait à l'Assemblée du législatif hier soir et nous en dit davantage.
Oui Guillaume, car dans mon analyse de ce budget, je n'ai trouvé aucune mention de Energy and Water Illier SA. Souvenez-vous, cette société anonyme devait être fondée en juin, notamment par la commune, afin de récupérer les concessions des eaux des bains de Valdillier. Mais coup de théâtre, les anciens propriétaires avaient bloqué la procédure quelques heures avant le vote des citoyens. Et si le tribunal de Monthey a décidé en octobre dernier de donner raison à la municipalité de Valdillier, cette dernière préfère encore se montrer prudente. Les explications d'Ismaël Perrin, président de la commune.
C'est normal que ça ne se retrouve pas dans le budget de la commune, si on devait faire quelque chose, puisque c'est justement une société anonyme qui a été créée pour régler ou résoudre ou participer à un tel projet. Donc la société anonyme aura à trouver son propre financement ou ses propres partenaires pour mener à bien ce projet. Maintenant, en fonction de ce dossier, on est en train d'attendre un petit peu aussi les décisions définitives des tribunaux, ou en tout cas, je dirais la deuxième, puisqu'un recours a été fait au niveau du tribunal cantonal sur la décision du tribunal de Monthey. Et puis, on va, je dirais, lisser un petit peu les actions de cette société en lien avec les bains et puis la concession, et attendre un petit peu la fin du premier trimestre, je dirais, 2022, pour, pendant ce temps-là, redéfinir un petit peu la stratégie et puis plutôt le timing.
Par contre, en ce moment, on n'a plus du tout de frais investis de la part de la commune. Il y avait un moment des décharges. Là, ça s'est arrêté. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit peu problématique? Il y a des choses en attente au niveau des bains, ou là, comme ça, quelques mois, une année, ça peut aller?
Alors, la commune a stoppé ses frais pour l'instant, mais je dirais qu'actuellement, il y a d'autres créanciers gagistes qui ont pris le relais pour continuer à maintenir le site au niveau dans lequel il est à l'heure actuelle. Ce qui est le plus problématique finalement, c'est plus de dire quand est-ce que ces bains pourront un jour redémarrer, parce qu'en termes d'image et puis en termes de temps qui passe, c'est clair que plus le temps aura passé, plus il sera difficile de retourner la clé et puis de relancer toute l'activité. Mais en termes de préservation du bien, pour l'instant, il y a d'autres créanciers qui ont pris le relais, on s'est un petit peu réparti les tâches, où il y en avait un au début principalement, ensuite il y a eu la commune, puis ensuite un troisième qui fait son étape et puis qui prend ses responsabilités lui aussi.
Et du coup, il y avait aussi d'éventuels repreneurs. C'est toujours d'actualité, ou pour le moment, ils se sont retirés vu la complexité du dossier?
Alors, retirés, ils ne se sont pas tous retirés. Je pense qu'il y en a certains qui ont fait un grand pas en arrière suite à la décision du mois de juin. Par contre, il y a toujours des repreneurs et des investisseurs intéressés. Et puis, ben, normalement, si tout va bien, on en rencontre encore un nouveau d'ici la fin de l'année. Donc l'intérêt pour le site reste marqué. Maintenant, ben, faudrait trouver des solutions pour que finalement certaines étapes puissent se faire en attendant des décisions définitives du tribunal.
Donc, est-ce que 2022, ça peut être l'année du renouveau des bains? On peut l'espérer, ou bien ça risque d'être encore plus long?
Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc ce serait un vœu pieux que ce soit effectivement 2022, mais voilà, disons qu'on se rend compte que d'un point de vue juridique ou procédure, on peut faire traîner les choses et compliquer un tel dossier qui est déjà complexe à la base, avec trois faillites et puis des multipropriétés à tout va. On garde espoir, il faut garder, c'est un site essentiel pour la commune de Valdillier, puis je pense que si la commune est la première à baisser les bras, tout le monde baissera les bras.
Ismaël Perrin répondait à Valérie Blom. Parmi les autres objets à l'ordre du jour de l'Assemblée primaire d'hier soir, les citoyens de Valdillier ont validé un changement d'affectation du plan des zones en vue d'un projet de déchetterie et de décharge communale. L'Assemblée primaire de Vouvry a accepté sans coup férir hier soir le budget 2022 de la commune. Celui-ci prévoit un excédent de revenus de 260 000 francs pour un total de recettes de 19,8 millions. 3,5 millions d'investissements nets sont prévus dans ce budget, notamment un montant de l'ordre de 900 000 francs pour la rénovation du bâtiment scolaire. Le plan quadriennal a lui aussi passé le cap hier soir de l'Assemblée des citoyens, laquelle a en outre pris connaissance du départ validé par le gouvernement cantonal de Valbonne-Octcha. La conseillère communale de Vouvry en mouvement se retire en raison de difficultés à concilier vie professionnelle, privée et politique. Monté présente son projet Casanova, lequel prévoit l'aménagement des 4 étages de la médiathèque en un lieu de vie, de savoir et de culture. Il permettra la réorganisation du service culturel qui intégrera Monté Tourisme en 2023, ainsi qu'une extension des prestations. Le Conseil général a validé hier soir le crédit d'engagement de 3,1 millions de francs sur 2 ans pour sa réalisation. L'ouverture du bâtiment est prévue en 2024.
Les familles valaisannes toucheront plus d'aide pour les enfants majeurs en formation.
Sont concernés tous les foyers en attente de pensions alimentaires. Ils pourront toucher au maximum 950 francs par mois au lieu des 550 actuels. Ces montants sont dégressifs et varient en fonction du nombre d'enfants et du revenu du ménage. En outre, la limite d'âge d'octroi de ces contributions passe de 20 à 25 ans. Ces adaptations entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Elles résultent d'une décision du Grand Conseil valaisan prise en février dernier. Le secteur valaisan de la construction s'engage pour une augmentation des salaires de 1,5%. Patrons et partenaires sociaux ont signé hier un accord en ce sens. Il entrera en vigueur en 2022. Plusieurs syndicats, dont UNIA et l'Association valaisanne des entrepreneurs, ont pour objectif commun de défendre les intérêts actuels et futurs de la branche. Ils relèvent par ailleurs que, malgré le contexte économique tendu, le monde de la construction en Valais est stable. Le canton de Vaud a lancé en mai dernier une lutte contre les nuisances sonores de la circulation routière. Les mesures administratives ont été durcies, pouvant aller jusqu'à la saisie immédiate du véhicule et à la destruction des pièces non homologuées dont il pourrait être équipé. À ce jour, une 20aine de contrôles ont été effectués. Ils ont abouti à plusieurs centaines de dénonciations. Par ailleurs, le canton déplore l'augmentation des rassemblements de véhicules modifiés illicitement et l'organisation de courses automobiles sauvages. Il annonce que les contrôles seront multipliés l'an prochain.
La Fondation des Grands Jettes lance un appel du pied.
Elle a mandaté la section tourisme de la HESSO Valais-Vallis pour mener une enquête quant aux habitudes de fréquentation de la réserve naturelle située à Nauville. Le but de cette démarche est de définir les attentes et les besoins des visiteurs. Une étude qui est menée en 2 étapes. Olivier Hépard, responsable de la réserve naturelle des Grands Jettes pour ProNatura.
Alors dans les faits, il y a durant le mois de juillet-août 2021, il y a quelques étudiants qui ont intercepté pendant plusieurs jours des gens dans la réserve en leur faisant remplir un questionnaire. Et alors ça, c'est le premier volet pour avoir, ils en ont rempli environ 370, c'était un bon succès. Et puis le deuxième volet, c'est pour voir un tout petit peu plus les gens de la région, ce qu'ils pensent des Grands Jettes. Et puis ça, c'est fait dans 3 communes, Neuville, Villeneuve et Port-Valais, où les gens peuvent remplir les questionnaires qui sont sur les sites.
Les questionnaires sont donc disponibles sur les sites internet des communes de Villeneuve, Neuville et de Port-Valais. La Fondation des Grands Jettes précise que ce questionnaire est anonyme. Les socialistes du district Riviera-Pays d'en Haut lancent 16 candidats dans la course aux élections cantonales 2022, avec comme objectif de retrouver les 2 sièges perdus en 2017. Pour ce faire, le PSR présente une liste composée de 10 femmes et 6 hommes, tous d'âge et de profession et d'origine différentes.
La municipalité de Montreux autorise l'extension des terrasses jusqu'au 31 décembre 2022.
Une 70aine d'exploitants en ont profité depuis l'été 2020, permettant ainsi de leur assurer une activité économique. Ainsi, plus de 1000 places assises ont été créées durant la crise sanitaire. Par ailleurs, l'exécutif montreusien n'accordera plus la gratuité aux exploitants qui utilisent le domaine public ou privé à cet effet. Il justifie en rappelant que la capacité intérieure des établissements publics n'est plus limitée depuis l'introduction du pass sanitaire. L'entreprise suisse Stadler Busnang SA a été choisie pour construire les rames du tramway lausannois. L'appel d'offres avait été lancé en septembre 2020 par l'ETL, les transports publics lausannois. Le marché comprend la livraison de 10 rames d'ici à 2025 en vue de leur mise en service entre Lausanne-Flon et Renangare à l'horizon 2026. L'investissement pour ce matériel roulant se monte à quelques 50 millions de francs, financé par un emprunt sous garantie cantonale, précise aujourd'hui l'entreprise de transport.
Le semi-confinement en Suisse a surtout stressé les femmes et les étudiants.
C'est ce qui ressort d'une étude de l'EPFL sur l'impact psychologique des mesures anti-Covid-19. La hausse de stress était en moyenne de 42% plus élevée chez les femmes que chez les hommes et 29% plus élevée chez les étudiants que chez les travailleurs, les personnes sans emploi et les retraités. Concernant les femmes, une hypothèse est que le semi-confinement a exacerbé les inégalités structurelles dans le travail domestique ainsi que la violence au sein de la sphère privée. Quant aux étudiants, ils ont pu souffrir du manque d'interaction sociale, la crainte de voir leur future carrière négativement impactée a aussi pesé dans la balance, selon cette étude.
Le Parlement fédéral bouclera cette semaine le budget 2022 de la Confédération.
Avec des dépenses pour plus de 80 milliards de francs et un déficit d'un peu plus de 2 milliards, il ne subsiste qu'une divergence de détails demandée par le Conseil des États, une coupe de 21 millions de francs dans la rubrique du personnel. Le Conseil national s'y oppose, la conférence de conciliation tranchera. Le débat budgétaire 2022 aura été le dernier pour un spécialiste des finances, le conseiller national vert vaudois Daniel Brella. Il s'en ira au printemps prochain, après une carrière qui a débuté il y a 42 ans au Conseil national avec des interruptions. Daniel Brella, un personnage plutôt effacé sur la scène fédérale ces dernières années.
Globalement, le budget en question, il est assez cohérent à part ça, et je crois qu'on peut le soutenir honnêtement, sachant que si on était tout seul, on ferait toujours un peu autrement, mais c'est jamais le cas d'aucun groupe au Parlement.
21 millions de dernières divergences qui vont à la conférence de conciliation, sur 80 milliards au total, sur 6 milliards de dépenses de personnel, c'est une goutte d'eau.
C'est un peu plus qu'une goutte d'eau, parce qu'après ça fera 150 postes, il s'agit de savoir où on va les enlever. Il faudrait mieux pas les enlever dans tous les projets prioritaires du Conseil fédéral et du Parlement. Et puis à ce moment-là, ça risque d'être une répartition proportionnelle entre les départements. Il faut pas que ce soit la règle de premier sorti pas remplacé, parce que parfois c'est des gens utiles. Mais c'est par principe que nous trouvons les coupes dites linéaires. Démerdez-vous avec, stupide.
Vous l'aurez reconnu, tant sur le fond que sur la forme, Daniel Brella au micro de Serge Jubin. Des faux carnets de vaccination ont été découverts en Appenzell-Rhône extérieur. Ils auraient été effectués en Allemagne, indiquait aujourd'hui la chancellerie du canton. Les falsifications ont été signalées à d'autres services cantonaux, à l'Office fédéral de la santé publique et à la police. 12 personnes devront répondre de falsification de documents et d'obtention frauduleuse d'un faux certificat. Ces derniers ont été invalidés. Le Conseil des États a donné son feu vert à l'accord sur l'imposition des travailleurs frontaliers italiens. Il l'a fait hier par 43 voix pour et une contre. Berne conservera 80% des impôts à la source prélevés sur les revenus des frontaliers transalpins qui travailleront en Suisse à l'avenir. Les nouveaux frontaliers, à savoir ceux qui arriveront après l'entrée en vigueur du traité, sont aussi soumis à l'imposition ordinaire en Italie qui doit, le cas échéant, éliminer la double imposition.
19 voitures sont volées chaque jour en Suisse.
C'est ce qui ressort d'une étude menée par le service britannique Confused.com. Sur une année, 85 vols de véhicules sont enregistrés pour 100 000 habitants. La Suisse se situe ainsi au 14e rang européen, à égalité avec l'Autriche. En tête du classement se trouve l'Italie, où 276 voitures sont volées en moyenne chaque année pour 100 000 habitants. Le ski de randonnée à le vent en poupe, ce sport se pratiquant hors des pistes fait de plus en plus d'adeptes. Chaque année en Suisse, il donne malheureusement lieu à 19 décès en moyenne. Le principal danger réside dans les avalanches, lesquelles seraient responsables des 2/3 de ces décès, rappelle aujourd'hui le BPA, le Bureau de prévention des accidents. À l'étranger, un séisme de magnitude 7,3 a frappé aujourd'hui l'est de l'Indonésie. Il a déclenché la fuite des habitants hors des bâtiments. Une alerte au tsunami initialement lancée a finalement été levée. Aucune victime ni aucun important dégât matériel n'ont jusqu'à présent été signalés dans les zones où le tremblement de terre a été ressenti. Les autorités ont toutefois appelé à la prudence. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre et à des éruptions volcaniques. Cela dû au fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent. L'archipel demeure marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra. La catastrophe avait provoqué un gigantesque tsunami et entraîné la mort de 220 000 personnes dans toute la région, dont environ 170 000 pour la seule Indonésie.
Le bilan des tornades aux États-Unis s'élève à 88 morts.
L'État le plus touché par ce phénomène météorologique exceptionnel est le Kentucky, qui dénombre 74 victimes. Les autorités de cet État ont toutefois pu être soulagées hier, puisque 94 personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres d'une usine de bougies sur les 110 qui y travaillaient. Parmi les autres États touchés, nous retrouvons le Tennessee, l'Illinois, le Missouri et l'Arkansas. Les coûts des catastrophes naturelles en 2021 se sont montés à quelque 250 milliards de dollars. C'est ce qu'estime aujourd'hui le réassureur suisse Swiss Re, un chiffre qui augmente de 24% par rapport à 2020. Dans la liste des désastres les plus coûteux figurent la tempête Ida qui avait frappé New York et les inondations de juillet survenues en Belgique et en Allemagne. L'ONU s'est montrée alarmée aujourd'hui au moment d'attribuer 72 exécutions extrajudiciaires aux talibans. Tout aurait eu lieu après le 15 août, date de l'amnistie générale prononcée par les talibans. Ils les auraient perpétrés contre d'anciens membres de forces de sécurité afghanes et d'anciens membres du gouvernement. Le meurtrier de George Floyd renonce à plaider non coupable. Le policier est condamné pour avoir tué l'Afro-Américain à Minneapolis pour y reconnaître pour la première fois ses torts. L'affaire avait déclenché les plus grandes manifestations antiracistes des dernières décennies aux États-Unis. Derek Chauvin a été condamné en juin par la justice du Minnesota à 22 ans et demi de prison. Cela pour être resté agenouillé pendant près de 10 minutes sur le coup du quadragénaire noir en mai 2020. La procédure de fermeture administrative de la grande mosquée de Beauvais dans l'Oise est enclenchée. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, justifie cette décision par la radicalité des prêches qui y sont données. La Norvège serre la vis dans sa lutte contre le coronavirus à la suite de la publication de projections alarmantes par l'Institut norvégien de santé publique. Plus d'alcool ne sera servi dans les bars et restaurants. La vaccination sera accélérée et le télétravail généralisé. Ces mesures entreront en vigueur dès demain et devraient être en vigueur au moins 4 semaines. Depuis le début de la pandémie, la Norvège a comptabilisé 317 000 cas positifs pour 1136 morts. En ski cross, Fanny Smith poursuit sa saison dans les Grisons. Après sa deuxième place à Val Thorens le week-end dernier, la Villardoux visera ce soir un troisième podium cet hiver. Du côté d'Arosa, c'est un sprint nocturne qui est au programme. Plus court mais aussi plus intense, ce format d'épreuve se veut plus spectaculaire, mais pas de quoi perturber la Chablaisienne. Habituée à ce type de course, elle aura l'avantage de connaître parfaitement les lieux. Elle, qui est montée 7 fois sur la boîte dans la station Grisonne, ce rendez-vous presque à la maison. Fanny Smith s'en réjouit. La skieuse vaudoise en profitera notamment pour engendrer encore plus de confiance.
J'ai eu un peu des chamboulements dans ma préparation, donc là c'est vraiment travailler et construire cette confiance, peaufiner les petites choses qu'il y a encore à travailler, mettre de la stabilité et surtout faire ces petites corrections, si on peut le dire, continuer à travailler sur des aspects aussi, un petit peu à côté, stratégique, technique, emmagasiner le maximum pour février.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Arosa, Johan Taché. Les épreuves de qualification se tiennent donc dès aujourd'hui du côté d'Arosa, tandis que la finale est prévue dès 20h15 dans la station Grisonne.
En ski alpinisme, les choses sérieuses vont reprendre sur le front de la Coupe du Monde.
Le retour aux affaires est prévu dès jeudi à Amabello en Italie. La délégation suisse comptera dans ses rangs Pierre Mettan. En Lombardie, l'athlète Deviona débutera sa deuxième année chez les seniors et le Chablaisien aura d'entrée une envie de revanche. La saison dernière, il s'était terminé en queue de poisson pour les Helvètes. Ils avaient en effet été disqualifiés de l'ultime épreuve de l'hiver en raison d'un non-respect au protocole sanitaire. L'envie de performer d'emblée est donc forte pour le Valaisan de 24 ans. Elle le sera surtout pour 3 rendez-vous particuliers. Pierre Mettan.
Je dirais qu'il y en a un peu deux principaux. Il y aura, je vais quand même viser une sélection sur les championnats d'Europe, parce que c'est quand même la course phare de cet hiver. Mais ensuite, le gros objectif sera les championnats du monde longue distance et suivi par la patrouille des glaciers pour clôturer la saison.
À ses côtés en équipe nationale, Caroline Ulrich vivra quant à elle sa dernière saison en U20. L'athlète de la Tour de Pérès sur 2 saisons couronnée de nombreux succès, 2 médailles d'or au JOJ Lausanne en 2020, puis 4 breloques décrochées l'hiver dernier aux Mondiaux Juniors. Le palmarès de la Vaudoise est déjà impressionnant et à en croire à son calendrier et ses objectifs, Caroline Ulrich ne compte pas s'arrêter là.
Alors pour moi, ça sera une saison très chargée pour le moment avec énormément de Coupes du Monde. Donc c'est pas encore certain que je participerai à toutes. Ça sera à voir vraiment. Je vais aller compétition par compétition et puis on verra bien. Mais c'est sûr que j'espère faire des podiums en Coupe du Monde et puis surtout aux championnats d'Europe qui seront fin février.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Le retour aux affaires est donc prévu jeudi pour Pierre Mettan, Caroline Ulrich et l'ensemble de l'équipe de Suisse. La première épreuve sur le front de la Coupe du Monde se tiendra à Amabello, en Italie.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec la bijouterie Exner à Montet. La bijouterie Exner, le créateur de vos envies.
Encore possiblement du stratus sur la Riviera avec un sommet situé entre 700 et 800 mètres d'altitude. Il devrait se dissiper en bonne partie d'ici la mi-journée, sinon partout ailleurs. Le temps est assez ensoleillé cet après-midi de mardi. Malgré des passages nuageux, il va faire au maximum 4 degrés en plaine, 5 à 1000 mètres et jusqu'à 10 degrés à 2000 mètres. Pour demain, du stratus probablement tenace sur la Riviera avec une limite supérieure située vers 900 à 1000 mètres km d'altitude. Et sinon, partout ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Le thermomètre indiquera demain de moins 1 à 4 degrés en plaine, de moins 3 à 3 à 1000 mètres et de 2 à 5 degrés à 2000 mètres.